Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Grâce.
J'espère que vous passez un été rempli de satisfaction, que vous avez le temps de faire ce que vous voulez, que vous vous portez bien, que vos proches vont bien également. On va commencer avec la première image. Je ne sais pas si c'est la première ou si je l'ai. On va prendre celle-là en premier. Dans divers sondages faits récemment, auprès des jeunes de 16 à 25 ans, on leur avait demandé ce qu'ils voulaient faire dans la vie et la réponse a d'ailleurs même étonné les sondeurs qui voulaient savoir prendre le pouls de cette partie de la population. Au lieu de répondre « moi je veux être professeur, je veux être médecin », je veux être même acteur ou chanteur. Une des réponses, la réponse qui a sorti en premier, les jeunes disaient « je veux être populaire » dans le sens d'être connu, d'être une célébrité, d'être reconnu. Ah, j'ai-tu... Est-ce que j'aurais besoin de quelqu'un à la technique à l'arrière? Non, je prendrais l'autre avant, l'autre encore avant. Et on est à une époque de communication et de réseaux sociaux où plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, le désir d'être connu et reconnu comme une personne exceptionnelle, ça devient un objectif de vie. Et on n'a qu'à voir le phénomène des influenceurs, où l'on gagne notre vie seulement en étant populaire et suivi de tous. Mais on voit que ces gens-là, ils travaillent. Ils ne travaillent pas 40 heures, ils peuvent travailler 60, 70 heures. C'est beaucoup d'énergie. Mais c'est tout un phénomène d'être suivi par de plus en plus de monde. Et parce que déjà des milliers de personnes s'associent à toi, te suivent et t'apprécient, ils te likent. Et les compagnies, en voyant ça, sont prêtes à payer des dizaines de milliers de dollars pour que tu t'associes en tant qu'influenceur à leurs produits. Et là, c'est une roue qui tourne et qui ne cesse d'avancer. Et malheureusement, on a beaucoup d'histoires que, à un moment donné, la chaîne débarque, c'est la déroute, parce que là, une autre personne, un autre influenceur est plus populaire que toi et que les gens, malheureusement, te délaissent. Et c'est tout un phénomène de société où on se demande pourquoi vouloir s'associer à une personne qui, au départ, avait pas déjà accompli dans sa vie des choses exceptionnelles qui fait qu'on dit waouh, on veut s'associer. En étant dans la soixantaine, je pensais à Maurice Richard, qui est devenu l'icône d'un peuple à cause de ce qu'il a accompli. Et quand on regarde l'histoire de sa vie, il s'est battu pour se faire une place comme hockeyeur en tant que francophone qui, à ce moment-là, était bafoué. Il a démontré qu'on peut faire notre place en tant qu'individu, et ça a été l'inspiration d'un peuple qui, à ce moment-là, vivait ce désir de prendre le contrôle des rôles importants dans la société. Et quand on regarde la biographie, l'histoire de Maurice Richard, il n'a jamais voulu être populaire. C'était pas dans son désir. Et il est devenu seulement après avoir livré des combats sur et en dehors de la patinoire. En guise d'introduction à notre texte, on doit réaliser que ce désir-là d'être connu, d'être reconnu, d'être apprécié, d'être estimé, d'être aimé, a toujours été là dans le cœur de l'homme. L'être humain a en lui ce saint désir-là de compter pour quelqu'un, hein, de savoir que je compte pour ma femme, que je suis apprécié, estimé, apprécié de mes enfants, de mes proches. C'est un désir qui est tout à fait normal. C'est même sain. Le problème réside dans ce que nous sommes prêts à faire pour recevoir cette reconnaissance, cette appréciation. Aussi, de qui nous voulons le recevoir et de combien de personnes nous voulons le recevoir. Également, pourquoi nous voulons recevoir cette reconnaissance. La troisième je vais appeler Marie-Ève, v'là deux semaines, qui avait trouvé un truc excellent. Donc, la troisième et dernière tentation de nos trois qu'on a étudiée dans notre passage de Matthieu chapitre 4 touche ce sujet-là, la reconnaissance publique. Dans le passage biblique, on a plus la gloire du monde, la reconnaissance, le désir d'être reconnu, adulé et admiré. Excellent. On est dans les versets 8 à 11 de la section 1 à 11. Et on va lire le verset 8 et 9 dans Matthieu 4. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et j'aime de la façon où on a le passage parallèle de la même histoire qui est racontée par Luc, qui décrit aussi cet événement. C'est enrichissant de lire également. Donc, Luc 4, 5, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et dit: je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. J'aime beaucoup aussi la parole vivante, qui est un texte un peu plus détaillé, de Matthieu 4, 8, parole vivante. On a cette expression-là qui dit: il fit passer devant ses yeux tous les royaumes du monde, et il déploya leur richesse et leur magnificence. Quelle belle expression, la richesse et la magnificence, puis Satan qui présente ça à Jésus, puis qui dit: regarde, j'aurais aimé, sur l'image ici, on a juste quelques petites villes, mais j'aurais aimé voir visuellement ce que Satan a présenté à Jésus. Pour une deuxième fois dans les trois tentations, ici, Jésus est transporté par le diable. Et je veux le répéter, quelle expérience humiliante pour le Fils de Dieu, celui qui, avant son incarnation, recevait depuis l'éternité passée l'adoration des anges, qui était un avec le Père, qui a accepté de démontrer l'amour du Père en venant sur la terre pour prendre notre condition, pour prendre notre condamnation, et que là, il accepte d'être transporté, amené pour vivre cette expérience-là. D'une façon surnaturelle, Jésus est amené sur une haute montagne et Satan lui fait voir un aperçu de la gloire du monde. Hein? Il lui fait voir toute sa splendeur. Jésus s'est prêté parce qu'il a été conduit par le Saint-Esprit, par Dieu le Père, pour être tenté dans le désert. Quelle est la tentation, hein, ici, de cette troisième tentation? Le verset 9 pourrait être développé comme ceci. Je vais te donner toutes ces choses-là, tout ce qui peut avoir de la valeur aux yeux d'un être humain. Si tu m'adores en te courbant devant moi, en tombant à mes genoux et en disant à l'adversaire, à Lucifer, à Satan, « Tu es mon Dieu, tout mon cœur, mon adoration, je te la donne en échange de tout ce que tu m'as présenté. » Et Satan demande juste un signe concret, extérieur pour l'adoration. Se courber, se mettre à genoux. Mais Jésus refuse de faire quoi que ce soit, quelque manifestation que ce soit qui pourrait donner une adoration ou une quelque valeur à l'adversaire. Satan dit, adore-moi, puis je te donne tout ça. Satan propose à Jésus un adultère spirituel, hein, l'expression qu'on a dans Jacques 4:4 qui dit que l'amour du monde est inimitié, il y a une séparation, il y a une coupure, inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et là, on ne veut pas être ennemi des gens qui nous côtoient. Là. Quand on parle du monde, on ne parle pas de pas aimer les gens. Hein. Jésus, le premier, a dit le premier commandement, c'est que tu vas aimer le Seigneur ton Dieu. Puis le deuxième, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Donc, l'amour du monde ici, c'est l'amour d'un système de pensée, de valeurs qui est contraire aux valeurs de Dieu, un matérialisme sauvage où les gens sont mis de côté, puis on ne tient pas compte des gens, où on est prêt à empoisonner des gens pour faire plus de profit. Ça, on peut dire, ça c'est le genre de choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde et les choses, les valeurs qui sont contre Dieu, qui sont dans le monde. Et les implications de cette tentation, premièrement, Satan met devant Jésus l'idolâtrie. De rendre à une autre personne qu'à son père ce qui revient à Dieu. Et l'idolâtrie comme implication l'aurait discrédité pour être le Messie. Jésus était venu pour une mission et si il avait cédé en adorant Satan, en adorant autre personne que son père et celui avec qui il était en relation, qu'il était égal. Donc, ça l'aurait discrédité. D'autres implications, c'est que Satan ici lui propose un autre plan que celui que son père avait prévu. Satan, par la bande, par l'implication, lui propose d'éviter la croix. Jésus savait très bien qu'un jour, il aurait l'adoration de toute personne. Satan lui propose un raccourci, un détour par la bande pour avoir la gloire, mais en évitant la croix. On a un exemple de cette tentation-là qui a été le lot de Jésus pendant sa vie terrestre. Hein? On se souvient quand Pierre s'est levé, puis Jésus venait de dire, écoutez, je veux vous dire, mes apôtres, mes disciples, que Il faut que je souffre, il faut que je sois mis à mort, que je sois crucifié, que je ressuscite. Pierre se levait en disant, « Hey, ça n'arrivera pas, je vais m'opposer, je suis contre ça. » Et là, Pierre, qui ne réalisait pas la portée de ses paroles, Jésus lui a dit à Pierre, son bien-aimé, « Arrière de moi, Satan! » C'était l'adversaire qui lui dirait, « Hey, écoute, y aurait-tu moyen que tu n'y ailles pas? Regarde ton bon disciple, il te dit, « Non, non. » Donc, c'est l'essence de la tentation de Satan. En Philippiens 2:9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsémané, dans la prière à son Père, dans l'agonie, il a dit, « Père, l'heure est venue, c'est le moment. Glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais avant que le monde soit. » Jésus était très au courant, il était lucide, il savait qui il était. Il savait que de toute éternité, il recevait avec son Père la louange, jour et nuit, continuellement, des anges. Et là, il dit, c'est le moment, je suis venu pour te glorifier, pour démontrer ton amour à l'humanité. Et je sais que après ma mort, après ma résurrection, je vais retrouver ma place pour l'éternité. Et c'est à cause de ça, Philippiens 2:8, le verset avant, ça dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc, Satan lui propose d'avoir cette gloire qu'il allait avoir de toute façon avant la croix, en évitant la croix. Et surtout, Satan lui propose d'acheter cette gloire contre une fausse adoration à Satan. Et quand Jésus revient après sa résurrection, il parle avec les disciples, puis il explique, puis il dit, « Ne fallait-il pas qu'il souffre pour entrer dans la gloire? » C'est quand il parle ici, il l'a fait vers la fin du chapitre 24, mais quand il parle aussi avec les disciples d'Emmaüs, il dit, « Vous ne comprenez pas, vous n'avez pas de nouvelles de Jésus, mais ne fallait-il pas que ces choses-là se passent? » Jésus, en venant sur la terre, avait plusieurs facettes reliées à sa personne. Il était le Messie, hein? De tout temps, par David, par tous les prophètes, c'était dit que un des descendants de David, par la lignée de Salomon, allait être le Messie qui allait établir un royaume de paix puis qui allait donner une délivrance à Israël. Donc, le peuple d'Israël attendait toujours le Messie. C'est quand qu'il va venir le Messie? Donc, Jésus avait cet aspect-là de sa personnalité. Il était le Messie qui allait venir régner. Hein, Messie, ça veut dire roi. Le roi qui vient régner sur son peuple. Et une autre facette, c'était le Fils obéissant qui vient pour servir et donner sa vie. Et Jésus a su mettre les deux dans le bon ordre. Et c'est toute une leçon pour nous. Jésus devait mourir pour ensuite ressusciter. Il devait s'abaisser avant d'être élevé. Et le passage nous dit que quand il va être élevé, il va recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse, hein? Autant ceux qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou va reconnaître, Jésus, tu es le Dieu véritable. Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui a donné ta vie pour le salut de l'humanité. Et en mettant les choses dans le bon ordre, il a accepté d'être rejeté, d'être crucifié avant de régner. C'est pourquoi on voit dans la vie de Jésus, dans les différentes circonstances, on pense à Jean 6, où le peuple a eu un moment de lucidité, puis on dit, « Hey, c'est lui le Messie, il fait des miracles, on va le prendre, puis on va l'établir roi. » Ça, c'était après la mort. Fait que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait simplement? Il s'est retiré sur la montagne. Il a dit non à un règne et à une gloire terrestre. Jésus connaissait le but de sa venue. Il était venu pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. Est-ce que dans notre vie, on suit les mêmes étapes que Jésus? Hein? On est des enfants de Dieu, on appartient à Jésus, on a eu ce privilège immense par grâce. Ce n'est pas parce qu'on était intelligent, qu'on a réfléchi, qu'on a dit, écoute, il y a une vie après la mort, Jésus est venu, je ne peux pas passer à côté du Sauveur qui est incontournable. Oh oui, oui, c'est une bonne chose de mettre ma confiance. Non, on n'était pas si intelligent que ça. On a eu besoin de la grâce de Dieu, de l'œuvre du Saint-Esprit pour ouvrir nos yeux, pour ouvrir notre cœur. Et le seul privilège qu'on a, c'est d'avoir répondu positivement en disant, « Oui, Seigneur, je crois en toi, puis je veux te donner ma vie. » Mais on est appelé à marcher dans les traces de notre Maître, de notre Sauveur. On va régner, mais notre royaume n'est pas de ce monde. Marcher dans les traces de Jésus. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Hein, Jésus a dit, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. » Donc, la tentative de Satan est vraiment grossière. Hein? Il ne prend pas de gants blancs, il ne va pas subtilement. Il dit, « Adore-moi, reçois ma gloire, renonce au but de ta venue. » Et là, on va voir la réponse de Jésus. Verset 10, Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Hein? » Retire-toi, une action précise, une prise de position. Ici, Jésus semble en avoir assez des tentations de Satan et peut-être qu'il trouve que Satan est allé vraiment trop loin. De toute façon, il lui dit avec autorité, « Retire-toi. » Et le résultat dans le passage, hein, on voit « Alors le diable le laissa. » Et on est encouragé, c'est certain qu'on n'aura pas une tentation aussi évidente, aussi directe. Le diable ne vous transportera pas quelque chose, il vous fera pas voir de vos yeux physiques des choses. Mais le diable est là, qui veut travailler dans nos pensées, nous faire croire à des mensonges, s'embarquer dans des scénarios où on en veut à des gens, où on embarque dans le jeu de l'adversaire et on a besoin, nous aussi, Jacques 4-7 nous dit, « Résistez au diable, il fuira loin de vous. » On a besoin de retenir que comme Jésus, on peut dire non au diable. Et quand on lui dit fermement non, en s'appuyant sur la parole de Dieu, en reconnaissant qu'on a une incitation à faire le mal, le diable va s'en aller. Le diable est un vendeur de péchés, et les péchés qui nous vend, là, il y a toujours un attrait extrêmement intéressant, attrayant, hein, sinon on n'irait pas. Et Satan approche ceux qui semblent intéressés. Donc, on a besoin de réaliser qu'on peut résister. Dans les deux premières tentations, on a vu que Jésus a dit « Il est écrit ». Hein, à deuxième tentation, Satan a vu ça, il a dit « Ouais, jette-toi en bas parce que il est écrit ». Donc lui aussi, il a voulu utiliser la parole de Dieu. Mais une troisième fois, Jésus, pour résister, s'appuie sur la parole de Dieu. On peut faire la même chose. Le Saint-Esprit va nous rappeler le moment venu de la bonne parole de Jésus, du bon verset qui va répondre à la situation. Donc, on veut garder la parole de Dieu dans notre cœur. Et ici, la citation qu'il utilise en disant « Il est écrit », on a deux passages. Premièrement, Deutéronome 6, versets 13 et 14. Le verset 13 dit « Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, au lieu de prosterner et adorer. » Mais le verset 14 nous dit « Tu le serviras lui seul. » Et c'était dans le contexte de ne pas aller auprès de d'autres dieux, de tous les dieux qui existaient dans les pays environnants. Et ça dit « Car l'Éternel est un Dieu jaloux, un Dieu qui... notre adoration, notre amour, notre cœur, c'est important pour lui. » On a également dans Exode 25, Exode 20, ça vous fait-tu penser à quelque chose? Exode 20? C'est là qu'on a les 10 commandements, hein, quand Moïse est arrivé avec les tables de pierre sur lesquelles étaient écrits les 10 commandements, c'est là que Moïse les communique au peuple. Et un de ces 10 commandements-là, c'est « Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. » Donc là, prosterner, adorer, c'est le même verbe. Et prosterner et servir, les deux. Et on a encore une répétition en Exode 23, verset 24, qui dit « Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. » Donc, prosterner et adorer Dieu seul. Les mêmes deux verbes, prosterner, adorer et servir. L'idée, c'est que tu ne te prosterneras pas, tu les serviras pas. Et Jésus, lui, les a pris et les a mis positivement. Tu vas adorer ton Dieu et tu vas le servir. Et c'est à lui seul, au vrai Dieu, que tu vas le faire. Adorer et servir. On a besoin de se souvenir de ces mots-là. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Le mot en grec qui est là pour adorer, c'est proskuneo. Hein? Proskuneo, ça nous fait penser à prosterner. L'adoration qui conduit à se courber devant Dieu. Adorer, prosterner, dans le contexte biblique, c'est une manifestation publique, concrète, de notre admiration qu'on porte à Dieu. Et cette adoration-là, elle doit aller seulement à notre Dieu, seulement au Seigneur Jésus. Adorer, dans un sens large, c'est se prosterner physiquement, mais c'est aussi... toute l'adoration de notre vie, c'est accepter de soumettre notre être tout entier à la volonté de Dieu. C'est un engagement profond du cœur. Adorer, c'est de dire, « Seigneur, tu es tellement grand pour moi que je te donne ma vie, que je veux faire ce que tu veux parce que tu as tellement fait pour moi, puis je sais que tu es celui qui peut me donner le bonheur. » Avec adorer, il y a servir, servir dans un service spirituel. Dans le Nouveau Testament, c'est notre adoration peut se traduire d'une façon bien concrète par le service de nos vies. Des actions, quand on peut faire plein de choses pour Dieu, hein, on peut juste obéir. Et obéir, c'est bien. Mais si on obéit, on fait ce que Dieu demande, mais qu'il n'y a plus cette adoration qui amène au service, c'est comme des actions vides. Le service qui est lié à l'adoration, c'est qu'on a des sentiments, on a un engagement vers Dieu, puis comme quand on est en amour, puis on a rencontré la personne de notre vie, hein, ça dure longtemps, là. Mais au début, c'est tellement fort qu'on aime cette personne-là, on est prêt à tout faire pour elle. Bien, c'est de cet amour-là qu'on doit adorer et servir notre Dieu. Hein? On sert les choses et les personnes qu'on adore. Et moi, j'aime faire un petit jeu de mots. Hein? On adore ce qu'on sert et on sert ce qu'on adore. Et ça va ensemble. Quand on aime tellement une chose, on veut tout donner pour cette chose-là. Quand on aime une personne, qu'on l'adore littéralement, ben on va tout faire. Nos mains vont suivre. Si on est au service des choses de ce monde, puis on dit qu'on les adore pas, ben il va y avoir un problème. Et si on dit qu'on adore Dieu, mais qu'on ne le sert pas aussi, il y a un problème, il y a une inconséquence. L'adoration ici, c'est un cœur qui s'est donné totalement à Dieu. Et si Dieu a notre cœur, il va avoir tout le reste. Il va avoir nos yeux, nos oreilles, nos mains, nos pieds. Tout le reste va suivre. Romains 12, 1 hein, nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, c'est là un culte, c'est une adoration. On dit, Seigneur, je t'aime tellement, je suis tellement touché par ce que tu as fait pour moi que, oh, regarde, prends ma vie, je veux vivre pour toi. Matthieu 6, 24, dans le contexte de l'argent, hein, qui est personnifié ici par Mammon, qui était le dieu de l'argent. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez aimer Dieu et Mammon. Et de la même façon, que ce soit l'argent, que ce soit les biens matériels, que ce soit notre confort, il y a un combat qui se fait. Et on ne peut pas adorer et servir le monde et toutes les choses du monde et de dire, moi, je suis 100% en train d'adorer le monde puis 100% en train d'adorer Dieu. Il y en a un des deux, à un moment donné, qui va prendre le dessus. Tu ne peux pas dire continuellement, moi, c'est 100% pour les deux. Jacques 4:4 qu'on a vu tantôt, hein, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. On ne peut pas servir et adorer Dieu et le monde, les deux en même temps. Jésus, quand il parlait avec les pharisiens en Jean 5:44, les pharisiens essayaient vraiment de prendre Jésus en défaut, et il essayait de paraître juste. Et Jésus, hein, il a été direct. Il leur a dit, vous cherchez la gloire des uns des autres. Donc, vous cherchez l'appui, l'approbation à bien paraître un pharisien face aux autres. Donc, il n'allait pas dire que Jésus était le Messie, hein. Nicodème l'a fait, puis il s'est fait un peu mettre de côté. Vous cherchez la gloire, la reconnaissance qui vient des uns des autres et non celle qui vient de Dieu seul. Et chacun d'entre nous, il vient un temps où on a besoin de faire un choix. On peut être courtois envers les gens. On peut être compréhensif. Comme chrétien, on n'a pas besoin de toujours lever notre drapeau de hey, « est-ce que tu as dit? C'est pas vrai! » Tu sais, je le faisais là, quand j'étais jeune chrétien. Là. C'était dans les années 83. À un moment donné, on s'ajuste. On veut tellement prendre position puis pas embarquer dans le monde qu'on est toujours en train de, comme un sifflet, en train de dire hey, « c'est pas vrai ça! » Puis ça, hey, dis pas ça! » Puis quelqu'un disait hey, « Eh, Seigneur! Emploie pas le nom de Dieu en vain! » À un moment donné, il faut qu'on se calme. On n'est pas en train de prendre position pour le monde en faisant ça. Mais il vient toujours un temps où on a besoin de se positionner. Est-ce qu'on adore et qu'on sert Jésus ou qu'on se laisse aller dans le courant du monde et qu'on va adorer et servir une idole qui peut être tout autre chose que Dieu? Comment savoir si une chose est une idole dans notre vie? Simplement, est-ce qu'elle empêche Dieu d'avoir la première place dans notre cœur? Est-ce qu'elle entre en compétition avec Dieu? Puis, est-ce que ça va faire en sorte que notre adoration pour Dieu va diminuer et notre attachement au monde va grandir? Satan désire l'adoration des enfants de Dieu. C'est bien connu, hein, on a fait une petite série sur la personne de Satan. Satan veut prendre ce qui revient à Dieu. Il voulait monter au-dessus de Dieu, prendre le trône de Dieu. Et s'il est capable de détourner les enfants de Dieu de notre amour, puis d'être focalisé, d'être centré sur Jésus, puis de profiter de notre relation avec Jésus, il va le faire. L'adoration des enfants de Dieu revient de droit à Dieu seul. Apocalypse 1:5 dit qu'il nous a rachetés puis il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Donc, il a fait de nous des adorateurs pour qu'on soit là en train de dire combien notre Dieu, on l'apprécie. Satan n'est pas sans dessein. Hein? Il a des desseins. Il a des choses à nous offrir. C'est tout un vendeur. Satan vient, il veut nous vendre le monde. Hein? C'est ce qu'il a offert à Jésus afin qu'une partie de notre cœur soit au monde et que cette partie-là qui revenait à Dieu soit enlevée. Satan, il nous vend quoi? Il nous vend l'argent. Y penser, faire des plans, s'inquiéter, le convoiter, y mettre notre énergie. Dire, moi, là, de devenir riche, là, c'est mon but dans la vie. Mais vous savez quoi? On peut même ne pas avoir comme but de devenir riche puis d'en avoir plein. Mais on peut faire de l'argent une idole. En s'inquiétant, en y pensant tout le temps, en n'ayant pas confiance, en mettant notre sécurité du fait qu'on a un peu d'argent de côté, puis on dit, il faut que je gère. On a besoin de réaliser que l'argent, hein, moi j'ai besoin de me dire ça, parce que je suis quelqu'un de très économe, j'ai besoin de me dire, regarde, c'est juste des chiffres dans des colonnes sur des écrans. Hein. À ce temps, c'est même plus sur du papier. Fait que qu'il y ait un ou deux zéros de plus, là, c'est pas si grave. On veut penser à d'autres choses. Satan aussi nous vend les biens matériels. Maison, auto, chalet, piscine, voyage, etc. Satan veut qu'on pense à ces choses-là. Satan veut que ces choses-là nous donnent une joie, un sentiment de bien-être, d'accomplissement. Ah, oh, j'ai acquis cette chose-là. Hein. Qu'est-ce qui arrive quand on a une auto neuve, pour ceux qui ont des autos neuves? Combien de temps on est content? Une semaine? Un mois? Puis, à un moment donné, l'auto, elle ne sent plus vraiment neuve quand on ouvre. Puis, on dit, on a besoin de quelque chose d'autre à cette heure. Ça va être la petite piscine. Hein? Dans mon coin, on a des petits terrains à Saint-Basile-le-Grand. Puis un trou d'eau, comme appellent ça mes voisins, c'est 12 pieds par 22 parce qu'ils n'ont pas plus de l'espace, mais c'est 40, 45 000 pour une petite piscine, puis ils sont pas là dans leur cour pour se baigner. Mais le temps qu'on fait le projet, ça nous donne, on a notre piscine creusée. Et c'est à nous, à chacun de nous, à faire la part des choses. C'est pas notre faute si on est dans un pays où on a des bons salaires, puis qu'acquérir certaines choses, on a une abondance, on a des opportunités incroyables, il y a une richesse collective qui est là, et on n'a pas à vivre en pauvre, on n'a pas à se priver de ce qui est légitime. On a besoin d'une maison, on a besoin d'une voiture, puis on a besoin d'en prendre soin, sinon on va avoir des problèmes. Mais jamais ces choses-là ne doivent passer avant Dieu. On a besoin de se dire qu'on peut acquérir certaines choses, qu'on peut posséder certaines choses, mais pas toutes les choses, et pas toutes maintenant non plus. Parfois, il y a des choses qu'on dit, « Seigneur, tu sais, j'aimerais bien ça, cette affaire-là, mais alors, regarde, je me sens tes mains. » Ça va se passer naturellement dans la volonté de Dieu, un 4 ans, un 10 ans plus tard, puis on était capable de vivre sans cette chose-là. La réputation et la gloire. Satan veut mettre dans notre cœur le désir de devenir quelqu'un. De quelqu'un d'important, de quelqu'un de grand qui va réussir, que les gens vont estimer. Jésus a dit que ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant Dieu. Est-ce que notre désir, c'est d'être grand, d'être important? Pourquoi on a besoin d'être aimé de tout le monde? Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste, pendant un certain temps, un 6 mois, un an, là, on voit son ministère, c'était lui la vedette. C'était lui qui était dans les déserts. C'est lui que la foule allait après, puis que les pharisiens, tous les docteurs allaient après, puis posaient des questions. Puis à un moment donné, est venu Jésus, il l'a baptisé, puis là, plus personne allait après Jean-Baptiste. Les disciples de Jean-Baptiste ont dit, « Hey, qu'est-ce qui se passe? Hey, nous autres, là, on l'avait l'affaire, là, puis tout à coup, plus personne, c'est comme un influenceur que tout le monde est délaissé. » Bien, Jean-Baptiste a dit, « On ne peut pas garder ce qui nous a été donné du ciel. » Puis il dit, « Il faut qu'il croisse en parlant de Jésus et que je diminue. » Donc, il avait compris son rôle, il l'avait bien accompli et il était à l'aise avec cette perte de popularité. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste a été mis en prison et il est mort décapité. Et pour lui, il acceptait. Aucune chose ou personne ne doit prendre la place qui revient à Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Lui seul. Satan nous offre la couronne avant la croix. Il veut défaire le plan de Dieu pour nos vies, pour nous empêcher de servir. Puis il nous offre un bonbon, un méchant gros bonbon, la vaine gloire du monde. Jésus, lui, veut juste notre cœur. Il veut juste que nos sentiments, nos émotions se tournent vers lui. On veut avoir ce cœur-là. Oui, on veut adorer et servir Dieu. On veut adorer et servir Jésus. Je peux vous dire que en préparant ce message-là, je réalisais à quel point moi, Richard Talbot, j'avais ce désir-là caché, enfoui, mais très présent de faire tout pour que les gens m'aiment, pour les gens m'apprécient, pour que les gens soient contents avec moi. Il est là, prêt à ressortir à n'importe quel instant, hein, un peu comme quelqu'un qui est une bibitte à sucre, qui est dépendant au sucre, quand il voit une belle crème glacée molle, recouverte de chocolat l'été, là. Moi, je suis comme ça, puis je sais que ça peut être le cas pour plusieurs d'entre nous. Et on a besoin de faire la part des choses. Hein. On ne veut pas aller dans des extrêmes. Moi, je me fous de tout le monde, puis je me fous que le monde me rejette. Non! Il n'y a rien de mal d'être remercié quand on a fait quelque chose. Il n'y a rien de mal d'être apprécié. Dieu a créé en nous, a mis ce besoin d'être aimé. Dieu veut qu'on aime et qu'on soit aimé. Mais, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'obtenir? Comment réagissons-nous lorsque nous croyons le mériter cette appréciation et qu'on ne l'a pas? C'est à ce moment-là qu'il faut recentrer, qu'il faut concentrer nos pensées à la bonne place. Est-ce qu'on veut être centré sur soi, centré sur les autres, ou un peu lever la tête et adorer Jésus? C'est lui qu'on veut adorer, c'est sur lui qu'on veut tourner nos pensées, de dire, Jésus, merci parce que toi, tu es là. Puis toi, tu connais toutes choses. Puis toi, si j'ai reçu des blâmes, des critiques, des accusations, quand pourtant j'avais bien agi et j'avais pas fait tout le mal qu'on me reproche, bien, toi, Jésus, tu le vois, puis tu connais toutes choses. Puis je peux trouver, si c'est pas pour le moment, une paix profonde, au moins une consolation et je peux trouver la paix, le soulagement en toi. Lorsqu'on est centré sur Jésus, sur sa gloire, sur son amour, on peut être libéré du désir tordu de devenir grand et populaire. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir recevoir sainement les compliments des gens. Hein? Des fois, on est très, très, très mal à l'aise. On veut tellement l'adoration puis la reconnaissance. Puis c'est comme si on voulait un peu une goutte d'eau. Puis si les gens nous en donnent, là, ben, là on devient mal, on se sent orgueilleux. Puis on ne sait pas comment gérer ces compliments-là. En étant centré sur Jésus, on va savoir donner, accepter simplement les compliments des gens. Et on va être capable de vivre sainement en paix avec les critiques, les reproches ou simplement le manque d'appréciation. La reconnaissance publique, hein, la grandeur que Satan voulait donner à Jésus, bien la bonne attitude, c'est que je ne cherche pas à l'avoir. Je peux vivre avec et je peux vivre sans. Je ne cours pas après. Si j'en ai un peu momentanément, je l'accepte. Et si j'en ai pas, on continue, puis on n'est pas pyramide. Là. La vie n'est pas moins agréable. Quand on dit non à ce désir de rechercher la gloire des hommes, la gloire du monde, on vit une grande liberté. On peut vivre la paix et la joie de vivre pour Jésus en l'aimant, en réalisant qu'au bout du compte, c'est lui qu'on aime, c'est lui qui nous a aimés. On a le privilège de connaître Jésus et oui, On veut l'adorer et on veut le servir dans ce qui nous conduit. On va terminer en priant. Seigneur Jésus, tu es digne de recevoir notre adoration. Parce que c'est toi qui es le Dieu véritable. À notre mort, quand nos yeux vont se fermer, la personne qu'on va voir, ça va être toi. C'est toi qui as vaincu la mort. C'est toi qui es éternel. C'est toi qui es le Dieu véritable. Seigneur Jésus, on veut reconnaître qui tu es et t'adorer toi. Merci Seigneur parce que tu n'es pas quelqu'un de grand et d'intransigeant, d'implacable qui utilise ta force pour maltraiter tes créatures. Au contraire, tu t'es abaissé. Tu es venu vers nous. Tu nous offres ce salut. Tu nous offres d'être associés intimement à toi. Tu nous offres de devenir tes amis, tes frères, tes enfants, des enfants de Dieu. Merci Seigneur pour ceux qui l'ont reçu et cette opportunité-là est là encore aujourd'hui, tant qu'on peut dire aujourd'hui. Seigneur Jésus, c'est toi qu'on veut adorer et en reconnaissance, on veut te servir. On veut mettre nos mains, nos pieds à ta disposition en cherchant à faire ta volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de nous? On veut te servir. Seigneur Jésus, également, donne-nous du discernement, donne-nous de l'intelligence spirituelle face au monde, à tout ce qui nous est offert au niveau matériel, au niveau opportunité. On est vraiment dans un monde d'abondance incroyable et on voit d'autres pays, d'autres coins du monde qui souffrent comme on entendait ce matin, Seigneur. Touche nos cœurs. Comment on peut te servir? Comment on peut utiliser tout ce que tu mets à notre disposition? Oui, Seigneur Jésus, c'est toi qu'on veut adorer et c'est toi qu'on veut servir de tout notre cœur. Amen.